Je voudrais en réalité, dans cet exposé, ajouter d'une certaine façon une ambition à une autre, ajouter une présomption à une autre, comme si c'était en redoublant d'audace que l'on pouvait se justifier vraiment, comme si c'était en étant plus présomptueux encore qu'on pouvait être réellement réaliste ou j'allais dire modeste. En tout cas, tenter une véritable justification de notre projet, de nos discussions communes ici. De fait, ce que je voudrais essayer de montrer ici, c'est que le moment du vivant, ce que je voudrais essayer d'entendre sous ce nom, sous ce titre, le moment du vivant n'est pas seulement une hypothèse théorique possible sur les enjeux scientifiques et philosophiques d'ensemble de notre présent. C'est d'abord cela que je voudrais essayer de proposer, une hypothèse théorique sur les enjeux scientifiques et philosophiques d'ensemble que nous vivons aujourd'hui. Mais à travers cette hypothèse théorique, et c'est ici qu'il y a une sorte de deuxième ambition, plus présomptueuse encore, ce que je voudrais montrer, c'est que cette hypothèse théorique elle-même est déjà une ressource pratique, peut être conçue déjà comme un moyen d'agir, d'intervenir dans les questions et les enjeux mêmes qui ont suscité cette hypothèse. La double ambition de mon exposé, c'est donc à la fois de montrer comment l'hypothèse du moment du vivant est bien cette hypothèse synthétique que je vais essayer d'esquisser, mais en quoi, en outre, cette hypothèse synthétique et théorique elle-même peut être un moyen pratique d'agir sur les questions mêmes qui la suscitent, en quelque sorte, dans nos vies collectives comme dans nos vies individuelles. Comme si la simple hypothèse du moment du vivant était déjà un effort pour répondre en pratique aux problèmes théoriques, donc, qui conduisent à la formuler. Il s'agit pour moi, dans ce bref exposé, d'esquisser la démonstration prudente de cette thèse présomptueuse. Et pour cela, je procéderai de la manière qui finalement m'a paru la plus simple possible, même si elle suscitera sans doute la discussion, et moi-même je la mettrai à la question, en quelque sorte, cette manière, la méthode que je voudrais vous proposer ce matin. Je partirai en effet pour esquisser la démonstration de cette hypothèse de ce que j'appellerais une situation critique. Une situation critique bien précise que je suivrai comme un fil directeur et qui me semble exemplaire du moment du vivant, mais aussi de ses risques, des problèmes qu'il suscite, des dangers qu'il comporte, et qui donc nous obligera à comprendre le moment présent comme moment du vivant, certainement, mais cela en plus d'un sens, en plusieurs sens. Et je voudrais donc soumettre cette situation critique, tirer de cette situation critique précisément plusieurs significations même du moment du vivant que je voudrais vous proposer aujourd'hui. L'hypothèse d'un moment du vivant ne peut, en un sens, et j'essaierai de montrer que je ne joue pas ici simplement sur les mots, l'hypothèse d'un moment du vivant ne pourra nous aider à penser cette situation critique qu'en étant prise elle-même de manière critique. Pour le dire autrement, le moment du vivant est un moment critique, non seulement par la gravité réelle des situations et des enjeux qu'il recouvre, comme je le dirai aussi en conclusion, les moments du vivant dans nos vies sont des moments critiques, mais le moment du vivant est un moment critique aussi parce qu'il ne recouvre pas ces situations critiques d'une manière évidente et immédiate. Le propre des situations graves, d'ailleurs, c'est qu'elles semblent être évidentes, forcément par leur gravité, par leur urgence. L'urgence est toujours un sentiment d'évidence. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que, précisément, le moment du vivant est aussi un moment critique parce qu'il nous oblige à penser ces situations. Ces situations nous obligent à être pensées à travers des distinctions et des discussions théoriques et pratiques, scientifiques et philosophiques, et aussi esthétique, on le verra, qui seuls peuvent lui donner tout son sens. C'est d'une manière critique qu'on peut penser les situations critiques. Et j'essaierai de revenir sur cet enjeu en conclusion. Et pour le dire d'un mot tout de suite, sur le cœur même philosophique au fond de la thèse que je voudrais soutenir, pour en donner tout de suite l'hypothèse métaphysique, on peut dire, ultime, je dirais que si le moment du vivant nous renvoie bien à la vie, à quelque chose comme la vie, ça ne sera pas comme à une substance donnée, comme à une essence, ni comme à une valeur ou à une norme immédiate, mais plutôt comme à un problème ou une série de problèmes pour notre pensée comme pour notre action. J'assumerai la thèse que le moment du vivant nous conduit bien à une philosophie de la vie, mais à une philosophie de la vie elle-même critique. Et pourtant quand même à une philosophie de la vie, je dirais quand même. Encore une fois, je tenterai de retrouver ces différents sens du moment du vivant, ces différents enjeux du moment du vivant, et j'en distinguerai trois, progressivement dans cet exposé, trois significations du moment du vivant, à partir d'une seule et même situation que j'essaierai de prendre comme fil conducteur. Quelle est donc cette situation ? À quelle première interprétation semble-t-elle nous obliger ? Et pourtant aussi, pourquoi faudra-t-il dépasser cette première interprétation ? Ce qui n'est qu'une première interprétation, c'est ce que je voudrais maintenant étudier dans un premier temps de cet exposé. Donc partir de la situation, d'une situation donnée, et en tirer une interprétation dont j'essaierai de montrer pourtant qu'elle n'est que la première, même si en un sens elle a sa nécessité, et elle peut sembler aussi s'imposer. Mais justement, c'est là aussi son risque. C'est que cette première interprétation risque d'être si imposante qu'elle comporte un danger et qu'elle en masque d'autres qui sont en réalité aussi nécessaires qu'elle. De quelle situation doit-on repartir ou repartir ici ? Ou au moins de quelle situation m'a-t-il semblé, malgré tout, et après y avoir bien réfléchi, hein, j'ai pensé à plusieurs points de départ possibles pour cette introduction, de quelle situation donc doit-on partir ou repartir ici ? Une situation, je voudrais partir d'une situation qui est devenue aujourd'hui comme une des images contemporaines de notre condition, et qui suscitera pourtant, à la limite, je le crains et je l'espère chez vous, comme chez moi d'ailleurs, un mouvement de recul immédiat, mouvement de recul qui me semblera révélateur de l'importance de cette situation, emblématique de notre condition, mais aussi de ce qu'elle a de réducteur et de la nécessité déjà d'en compliquer l'interprétation. Hein, donc, c'est pas juste des clauses de prudence, parce que le mouvement de recul que j'ai en tout cas devant cette situation pourtant fondamentale, a quelque chose de significatif. La situation que je suivrai donc ici comme un fil rouge, hein, tout au long de cet exposé, en compliquant peu à peu la compréhension, est une situation emblématique de notre temps. Ce sera pour moi aujourd'hui l'épreuve de la fin de vie, pour un homme ou pour une femme, atteinte de la maladie d'Alzheimer, atteint ou atteinte, de la maladie d'Alzheimer est traité et soigné, je reviendrai sur la distinction possible, enfin l'élargissement possible entre ces deux termes, hein, traité et soigné pour cela dans une des institutions de plus en plus nombreuses par la force des choses qui prennent désormais en charge cette situation dans nos sociétés. Avant même d'y revenir, je voudrais donc dire un mot du mouvement de recul presque inévitable qui nous saisit devant cette situation. Ce mouvement de recul n'est pas tant un mouvement de recul, me semble-t-il, devant la situation elle-même. Devant, j'allais dire, l'horreur de la situation elle-même. La dégradation produite par la maladie d'Alzheimer, comme par d'autres maladies chez les êtres humains. Pourtant, il faut le dire, comme le montrent la plupart des moralistes réels, j'allais dire, il y a aussi ce mouvement de recul inévitable devant ce type de situation. Ce mouvement de recul fait partie de la dimension du problème, et toute éthique qui prétendrait l'abolir, ce mouvement-là de recul, au nom d'une sorte de mouvement au contraire de simple d'empathie postulée ou de bonne volonté immédiate, manquerait, je crois, l'essence même du problème. Mais ce n'est pas d'abord de ce mouvement de recul devant la situation elle-même que je voudrais parler, c'est d'abord du mouvement de recul devant la prétention de faire de cette situation l'image emblématique de notre temps. L'image emblématique de notre condition, j'allais dire ontologique, de notre être, telle que la science aussi le décrit aujourd'hui, mais l'image emblématique aussi de notre action, de l'horizon de notre action, de l'action qui nous reste, pour ainsi dire, éthiquement et politiquement, à nous aujourd'hui, dans nos sociétés et dans l'histoire. Il y a un mouvement de recul légitime, profond, devant l'idée que cette situation, la situation devant laquelle nous met cette maladie, serait à la fois la vérité ultime de notre être et la norme ultime de notre action. Et pourtant, s'il y a ce mouvement de recul légitime, et encore une fois, je vais justifier ce recul, et on ne peut pas se contenter de cette image, il faut aussi comprendre que si elle comporte un risque qui appelle une critique, cette image comporte aussi une vérité et une nécessité. Et même deux vérités et deux nécessités théoriques et pratiques qui sont la première interprétation, donc, que je voudrais vous proposer du moment du vivant. Ce à quoi cette situation nous renvoie d'abord, je dirais donc, la dégradation extrême, sous l'effet d'une maladie cérébrale, d'un sujet humain vivant, ce à quoi cette situation semble d'abord nous ramener, et en réalité nous renvoie quand même, d'un point de vue ontologique ou théorique, pour le dire d'une façon simple, et nécessairement simpliste, ce serait, en un sens, à notre condition brute d'être vivant. Comme si cette situation, cette maladie, mettait en quelque sorte à nu, cette image est récurrente, et je crois que quelqu'un a dit hier qu'elle travaillait sur cette question de la nudité, de la vie nue, en thèse, mais c'est un des enjeux réels, je crois, du présent, comme si cette situation mettait à nu, sous les oripeaux détruits de la vie humaine, individuelle et culturelle, mentale et sociale, quelque chose de la vie tout court, de la vie dans sa brutalité. Cette vie nue, dont parlait dans un autre contexte Giorgio Agamben, que je citerai aussi tout à l'heure, mais dont parle aussi Simone Veil, dans un texte important sur le malheur, où elle décrit ce qu'elle appelle la hideur de la vie mise à nu. La hideur de la vie mise à nu. Hideur de la vie mise à nu que nous rencontrons tous quand nous, sous la peau qui protège nos organismes, nous fouillons dans les chairs souffrantes. Ce serait donc à cette vie mise à nu que nous ramènerait cette situation critique. Pourtant, je dirais, et il faut donc être assez précis, je vais seulement esquisser les analyses ici qui s'imposent, mais c'est important de le faire. Pourtant, il me semble que la maladie d'Alzheimer, disons une maladie comme la maladie d'Alzheimer, ne nous fait pas passer directement de la vie humaine à la vie nue. Peut-être même qu'elle nous impose tout autre chose que ce déplacement, quelque chose de plus radical ou de plus réducteur, en un sens encore non normatif, réducteur simplement objectivement en quelque sorte, que cela. Ce que cette maladie nous impose, c'est un processus graduel qui a conduit là, évidemment, on ne passe pas d'un coup. Ce que cette maladie nous impose, ce qu'elle nous oblige à faire, c'est précisément à objectiver toutes les étapes et tous les mécanismes qui conduisent d'une situation de la vie humaine à une autre. Et cela à travers le fonctionnement d'un organe bien précis, qui est en l'occurrence le cerveau. Je dirais que cette maladie, cette analyse, l'analyse scientifique en tout cas de cette situation, ne nous ramène pas plus à la vie nue qu'à la vie humaine. En certains sens, je suis un peu radical, mais bon. Elle ne fait pas plus de cet organisme grelottant, égaré sur ce lit, perdu dans le monde, la vérité ultime de la vie humaine, que la santé ne faisait de ce même corps, souriant, parlant, reconnaissant ses proches, donnant sens au monde, au langage et à son action, la vérité de la vie humaine comme telle. En deçà de la vie humaine habillée et de la vie nue, l'analyse scientifique des processus qui la fondent nous ramène en réalité, hein, derrière cette polarité vitale du normal et du pathologique, aux mécanismes matériels, cérébraux, qui en sont deux fois le fondement. Peut-être que plus que la vie nue, qui est peut-être aussi une illusion, c'est d'abord à des mécanismes objectifs, en l'occurrence ici des mécanismes cérébraux, que la science nous réduit nécessairement et légitimement, pour les affronter et pour les traiter aussi. Réduction ou objectivation précise, nécessaire, utile, vitale en un sens, au sens du besoin, de l'ensemble des fonctions de la vie humaine qui, à travers cette maladie, prennent tous un fondement objectif. Des plus intimes des fonctions, jusqu'à la reconnaissance des êtres aimés, jusqu'au plus vaste, la maîtrise du langage, de la liberté morale et politique, la faculté d'être un citoyen dans une société. De l'intime au public. L'ensemble est sous-tendu par des fondements objectifs, en l'occurrence cérébraux. C'est entre autres, pourrait-on dire, puisqu'il y a d'autres exemples possibles, le moment du vivant est donc alors, plutôt que le moment de la vie nue, le moment du cerveau, on pourrait dire ici, un moment qu'on pourrait dire cérébral ou neuronal, le moment que, parmi d'autres, hein, on va citer d'autres exemples, c'est aussi le moment du génome, c'est aussi le moment j'en donnerai d'autres exemples tout à l'heure. Le moment aussi, pourrait-on dire, pour emprunter un terme à Catherine Malabou, qui est une de celles qui a été le plus loin dans l'analyse de ces questions, le moment de ce qu'elle appelle la cérébralité. La publication en 1983 de L'homme neuronal, de Jean-Pierre Changeux, a fait d'ailleurs partie, me semble-t-il, des étapes majeures, très controversées, et qui restent controversées, qu'il faut discuter, encore une fois d'une manière critique, mais constitutive, de cet aspect au moins du moment du vivant. Du moment du vivant comme moment de l'objectivation du vivant. De l'objectivation, et à travers l'objectivation du vivant, de l'objectivation de l'ensemble de notre vie, précisément. Peut-être n'avait-on jamais pu montrer à quel point, non seulement des fonctions générales, comme le langage en général... C'était déjà chez Broca en 1861 une découverte, la localisation des aires du langage. Mais la manière singulière de parler à un être aimé et la manière d'assumer aussi l'ensemble des fonctions donc, de la vie humaine pouvait être désormais objectivée. Ce moment neuronal est-il donc un moment du vivant? Au fond, ça n'est pas sûr. Rien n'est moins sûr. Et nous touchons ici à l'une des questions que nous allons agiter, me semble-t-il, dans ce colloque. C'est que, en un sens, derrière notre vie, derrière la vie elle-même, même nue, il y a quelque chose de plus simple encore, la réduction au sens scientifique, à des mécanismes matériels, à cette objectivation inévitable, qu'il ne faut peut-être pas se hâter, mais qu'il faut aussi... évidemment, ne pas hésiter, en quelque sorte, à mettre sous le signe de l'inverse de la vie. Non pas seulement de la matière, mais peut-être de la mort. De la mort en un sens neutre, pourrait-on dire, comme Hans Jonas, dans un texte majeur, montre que la science de la vie étudie en réalité la vie sous le signe de la mort. Ou comme Michel Foucault, dans un texte de La naissance de la clinique très célèbre, montre que la naissance de la clinique, précisément, consiste à étudier le vivant sur le cadavre. Ouvrez les cadavres. Le mortalisme est ici la vérité de l'étude du scientifique du vivant. En un sens neutre et non pas forcément critique, puisque, évidemment, pour soigner le vivant, il faut d'abord l'étudier comme si c'était un mécanisme matériel, sous le signe de ce que Jonas et Foucault, de manière très différente, en réalité, appellent la mort. Jonas pour le critiquer, Foucault pour le revendiquer en un certain sens. Hein, puisque dans La naissance de la clinique, les premiers mots, vous le savez bien, c'est « il sera ici question de l'espace, du langage et de la mort ». Hans Jonas, lui, montrant qu'en réalité, toute la science moderne a pensé le vivant sous le signe de la mort. En tout cas, nous touchons ici, me semble-t-il, à un socle ou à un roc épistémologique et métaphysique. Y a-t-il même quelque chose comme du vivant, ou n'y a-t-il que des mécanismes matériels? C'est l'une des questions que nous aurons à soulever. Derrière cette objectivation, cette première interprétation paradoxale du moment du vivant, puisqu'en un sens, c'est le moment de la réduction. Mais à côté de cette première nécessité, c'est une nécessité scientifique, qui comporte, on le voit bien, un premier risque, il y a une autre nécessité dans cette situation que j'ai prise comme exemple et qui suscite précisément le mouvement de recul que j'ai évoqué aussi. Une autre nécessité qui comporte aussi un autre risque et qui est une nécessité morale et politique. La nécessité en question, ça n'est plus la nécessité d'objectiver la situation pour la traiter, pour l'affronter. C'est même cette objectivation qui conduit à dire que ce n'est pas simplement une souffrance, une démence, mais une maladie de ceci, de cela. Le syndrome, l'appellation même de maladie d'Alzheimer est déjà une objectivation et en un sens déjà une résistance à la situation. Mais précisément, la deuxième nécessité, c'est évidemment d'agir contre cette situation. Le moment du vivant, c'est en un sens le moment du soin, d'abord en un sens négatif, comme obligation de préserver ce dont la continuation est ici menacée. La vie individuelle menacée par la maladie, la vie humaine menacée par le meurtre autant que par la mort en général, la vie collective et même la vie planétaire menacée par des catastrophes écologiques ou politiques en tout genre. En ce sens donc, à côté de la nécessité théorique, et même avant elle, il y a une urgence pratique, hein, une urgence pratique à affronter cette situation, et une nécessité qu'on pourrait dire vitale. Pourtant, évidemment, cette urgence pratique suscite en nous un mouvement de recul, et c'est un mouvement de recul double, j'allais dire. D'abord parce que évidemment, et c'est un des enjeux centraux, il me semble, de notre moment du vivant, c'est le risque que notre action individuelle et collective n'ait plus comme signification que de lutter contre cette réduction à la vie nue ou à la mort, contre ce risque d'interruption de la vie, contre la maladie, le meurtre ou la catastrophe. Comme si toute notre action ne pouvait plus être que ce soin immédiat, ultime, vital, urgent, intensif, qui est pourtant nécessaire, tout comme la connaissance objective des faits qui le produisent. Ce risque me paraît être un risque fondamental, hein, sur lequel je vais évidemment revenir dans un instant. Ce que je voudrais ajouter, c'est que dans cette image de la maladie extrême, de l'homme déchu, pourrait-on dire, par la maladie d'Alzheimer, dans cette image de l'homme déchu, converge selon moi, hein, c'est l'une de mes hypothèses sur le moment du vivant comme moment présent, converge en réalité non seulement une image objective de l'homme malade et mourant, mais aussi une image morale et politique, hein, de l'homme précisément mourant aussi en un certain sens, mais pour des raisons éthiques et politique. Dans le spectre du malade de la maladie d'Alzheimer se lit, d'après moi, comme en filigrane, d'autres se voient, d'autres spectres encore. Le spectre des... le spectre du... Ce pourquoi justement Agamben a forgé la notion de vinu, celui du déporté dans les camps d'extermination. Le spectre de ce que Deleuze appelle la loque humaine, en général, qui l'oppose aux droits de l'homme, comme on le sait dans Qu'est-ce que la philosophie, comme étant la vérité secrète de l'homme. L'homme serait cette loque. Non pas un être digne de respect et doté de droits. Mais la réalité de l'homme, c'est cette loque entre la vie et la mort, qu'il s'agisse du clochard dans nos rues, du déporté de retour des camps, du malade qui a perdu la mémoire et la reconnaissance de ses proches, tous ces spectres des hommes chancelants, des hommes déchus, qui en réalité sont un des horizons inévitables, éthiques et politiques, de notre temps. C'est à travers ce spectre de la loque, on pourrait dire, pour être un peu sinistre comme ça, que nous ne pouvons pas ne pas percevoir les événements politiques de notre temps. Et bon. Il y a donc ici une nécessité. Autant il faut connaître ces mécanismes cérébraux, autant il faut agir contre ces menaces vitales. Pourtant, il y a aussi un risque dans cette première image du moment du vivant que j'appellerais le moment de la réduction. Et qui est encore une fois, je ne veux pas sous ce nom uniquement le critiquer. Il est évident qu'il faut l'assumer et l'affronter. Mais il y a aussi un risque, et ce risque est radical, et je l'ai déjà évoqué évidemment en filigrane. Le risque de cette première version du moment du vivant, comme moment de la réduction, c'est un risque d'idéologisation que je dirais double. Il a deux faces, ce risque. Il a une face de radicalisation et une face de refus ou de déni. Du côté de la radicalisation, nous trouverons ceux qui font de la vie matérielle et détruite, déchue, hein, une sorte de position idéologique première, au sens de vérité ultime, qu'il faut accepter sans autre forme de procès, et au nom duquel tout s'imposerait de manière évidente. Réduction de l'ensemble de l'expérience du vivant humain à des mécanismes, réduction de l'ensemble de l'action humaine à une lutte contre le désastre et contre la déchéance. Il faudrait ici marquer le moment très précis où cette lutte devient idéologique. Elle est nécessaire, il y a un point où elle devient idéologique. Le point où elle devient idéologique, me semble-t-il, c'est le point où, au lieu de lutter contre des risques précis, on lutte contre la mort en général. On en a parlé souvent dans nos groupes de travail sur la catastrophe. Moi, je distingue très fortement la lutte contre les catastrophes, qui ont toujours des singularités très précises, et le fantasme de la catastrophe. De même, il faut lutter contre les causes de la mort, mais on peut avoir une idéologie de la lutte contre la mort. Je pense qu'un certain, une certaine politique radicale, en effet, il y a eu des critiques très fortes du capitalisme du désastre, aussi de la manipulation cérébrale. Hein. Ces critiques ont raison sur un certain type d'excès et de danger d'idéologisation par la radicalité, hein, ce moment de la réduction. C'est un risque profond et grave. Mais c'est un risque qui, encore une fois, ne doit pas, et j'en passe au deuxième versant de ce risque, ne doit pas nous amener à masquer ou à dénier la réalité matérielle de notre vie et l'urgence, en effet, réelle, de la lutte contre les maux qui nous réduisent à des loques, ou risquent de nous réduire à des loques humaines. Ce terme de Deleuze m'a très souvent retenu comme étant très, très choquant, mais en même temps, il est capital, hein, à mon avis. Bon. Du coup, le deuxième versant du risque, la deuxième idéologisation de ce moment de la réduction, c'est évidemment l'idéologisation par le déni ou par le refus. Face à cette réalité matérielle, face à ces urgences négatives, la deuxième tentation, c'est celle de la compensation illusoire, on dirait. Le retour des vieux dualismes et des pires régressions, le retour du déni, hein, le retour aussi d'un supplément d'âme au sens que Bergson justement ne donnait pas à cette expression qu'il a inventée dans les deux sources de la morale et de la religion, le retour du mythe, hein, et de sa puissance d'ailleurs terrible, symétrique à mes yeux d'une idéologie de la revendication du pur corps vivant, au sens... de la revendication qu'on pourrait dire je reviens pas là-dessus, mais enfin, on voit bien cette symétrie des deux idéologisations, hein, qui font d'un côté une sorte d'ultra-catastrophisme et d'un autre côté une sorte de déni de la catastrophe, comme dans tous ces discours aussi, qui vont nous amener à... Qui, dès qu'on parle de catastrophe ou de maladie, on se voit traiter de Cassandre ou de pur idéologue, alors qu'en réalité, la position médiane, la seule possible, est évidemment la plus difficile. Ce double risque n'est pourtant pas un pur fantasme idéologique et il est lié à cette première interprétation de cette situation. Cette interprétation par la réduction. Encore une fois, pleinement légitime. Il me semble qu'il faut l'assumer et j'expliquerai pourquoi en conclusion, enfin dans mon troisième moment qui sera très bref. Mais ça n'est pourtant qu'une première interprétation et je voudrais montrer pourquoi en réalité, il y a une deuxième interprétation possible et même nécessaire de la situation dont je suis parti ce matin, comme d'un exemple, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait prendre celle précisément de la catastrophe collective, d'une épidémie ou d'un tremblement de terre. Mais bon, je suis parti de cette situation de la maladie d'Alzheimer. Cette deuxième interprétation, elle est nécessaire et urgente à la fois théoriquement et pratiquement. C'est elle dont je voudrais revendiquer qu'elle est aussi utile pour agir. Cette deuxième interprétation, je l'appellerai l'interprétation non pas par la réduction au vivant, mais par l'extension du vivant. C'est le moment du vivant comme moment non pas de la réduction, mais de l'extension du vivant. Et je voudrais me concentrer pour la décrire, et après j'irai très vite dans ces enjeux, sur les raisons réelles de la mener, cette deuxième interprétation, à partir de la situation elle-même d'où je suis parti ici. Qu'en est-il en effet du vivant dans cette situation où nous traitons et nous soignons, c'est ici que cette distinction va être intéressante, nous traitons et nous soignons un malade atteint de la maladie d'Alzheimer dans une institution qui, encore une fois, sont de plus en plus nombreuses dans notre société, dans ce but. Le vivant est-il seulement dans le mécanisme précisément déréglé, défait, déchu, en quelque sorte, qui cause la situation objective de ce corps que nous avons sous les yeux dans les situations... dont chacun a l'image, puisque c'est l'une des images, omniprésentes, hein, d'étoiles de fond de notre présent. La réponse est non. Le vivant a aussi plusieurs autres lieux dans cette situation. Tout d'abord, le vivant, ça n'est pas seulement ce cerveau défait, c'est précisément ce qui a été fait dans ce cerveau et qui est maintenant défait. Si le corps vivant est ici dans cette situation critique, c'est bien aussi parce qu'il n'y a pas toujours été, parce que le cerveau humain avait construit auparavant, et c'est le résultat aussi d'une longue évolution ou d'un long développement, un ensemble d'autres mécanismes qui l'avaient rendu capable de ses facultés qu'il a maintenant perdues. Il faut donc aussi revenir à la construction, à l'évolution, à la création, pourrait-on dire, de ces mécanismes. Le vivant était autant dans cette création que dans cette destruction. Deuxième point, le vivant n'est pas seulement dans le fait de subir cette déchéance, mais aussi, et c'est ici que je voudrais rejoindre implicitement, mais réellement, une philosophie comme celle de Canguilhem, le vivant est aussi dans la lutte contre cette perte. Le vivant n'est pas seulement celui qui est l'objet de cette déchéance, mais celui qui lutte contre cette déchéance. Qui lutte et qui d'ailleurs parfois aussi l'accepte. À Canguilhem et à la lutte contre la pathologie, il faut peut-être ajouter une dose de Freud et parfois de désir de mort, ou de, en tout cas de lassitude vitale devant la situation elle-même. Mais en tout cas, une attitude subjective devant cette situation et pas seulement à une... au fait de la subir objectivement. Cette attitude subjective étant elle-même vitale, et pas seulement un luxe psychologique, une caractéristique des uns ou des autres, qui vont plutôt bien ou pas bien psychologiquement. C'est un aspect vital du vivant. Les théories psychologiques et biologiques nous le montrent aujourd'hui pleinement. Ce sont deux premières dimensions où le vivant doit être étendu à ce qui a été acquis et à la lutte contre la perte. Mais il y en a encore d'autres. L'autre vivant qui est devant Alzheimer, comme dit le titre d'un des plus beaux récits de vie de la maladie d'Alzheimer, celui de Pierre Pachet, intitulé « Devant ma mère ». Eh bien, celui qui est devant le malade d'Alzheimer est bien entendu lui-même un vivant. Et les théories biologiques de l'attachement nous montrent que la souffrance ressentie par les proches devant leurs proches souffrants est une souffrance vitale et cérébrale. Tout autant que la souffrance de celui qui est atteint de la maladie. Ici, ça n'est pas une spéculation non plus de philosophe moralisant, c'est une réalité biologique ou vitale. Le vivant est aussi dans la relation entre les vivants. Ici aussi, cependant, cette relation ne va pas dans un sens simple. Elle affecte le vivant souffrant par, de façon polarisée, je dirais, par un soutien vital possible. C'est ici que le soin dépasse le traitement, le soin subjectif dépassant le traitement objectif, mais elle peut aussi donner lieu à de la malveillance et à de la haine. Et donc, ici aussi, nous retrouvons un élargissement du vivant, non seulement par des seuils de compréhension où on accède à la relation entre les vivants, mais par une polarité et une négativité. Autre extension encore, et qui n'est pas négligeable, le traitement de ces malades dans des institutions sociales et politiques n'est lui-même pas une pure excroissance humaine faisant exception dans le règne du vivant. Comme l'a montré là aussi Canguilhem, comme on pourrait le montrer à travers plusieurs philosophies récentes, compris celles qui ont suivi Canguilhem, de Simondon ou de Foucault, les traitements sociopolitiques de la vie sont eux-mêmes en rapport avec la vie elle-même. Que ce que l'on pense ces institutions comme issues de la vie, de manière canguilhémienne, les institutions sociales prolongeant les outils vitaux, la technique, ou bien, comme Foucault, comme pensant au contraire la vie comme étant ce que produisent les institutions qui traitent de la vie. De toute évidence, le malade d'Alzheimer est aussi la personne qui est traitée dans un endroit qui traite la maladie d'Alzheimer. Et donc ce renversement constructiviste, pourrait-on dire, est en réalité l'un des enjeux du problème, et ce que je voudrais simplement souligner, c'est que le biopolitique n'est pas extérieur au vivant, mais est au contraire une extension inévitable du vivant. Là aussi, polarisé. J'ajouterai un dernier élément, c'est ce que j'appellerais le rapport au monde naturel et au monde culturel. Comme on le sait, le rapport à l'environnement, la constitution d'un monde naturel est fondamentale pour le malade d'Alzheimer lui-même. Il a besoin de deux choses qui peuvent paraître contradictoires. Il a besoin de l'extérieur, d'un rapport ouvert au monde. Il veut sortir, il veut ressentir la lumière du soleil sur la peau, il veut se promener, il veut fuguer. Et en même temps, il veut un lieu familier, il veut un chez-soi. Il y a donc un rapport du vivant au monde, qui n'est pas seulement qui est le rapport de l'organisme au milieu, mais qui est aussi le rapport du vivant humain au monde naturel, mais aussi au monde culturel. Il nous faut une ouverture sur le monde social et une conversation avec d'autres hommes. Là aussi, le plus large et le plus familier. Et tout cela fait partie du vivant, ou plus exactement, le vivant doit s'étendre à toutes ses dimensions. Évidemment, c'est cette extension du vivant à l'émergence des facultés, à la lutte contre la perte, aux relations entre les vivants, aux institutions et au monde qui définissent, à mes yeux, le moment du vivant sous le signe de l'extension, donc des problèmes du vivant. Cette extension du vivant aujourd'hui n'étant pas seulement une spéculation philosophique, mais une réalité scientifique et politique. Je voudrais donc dire deux mots encore sur ce point avant de passer à ma dernière partie, qui sera beaucoup plus brève. Premier mot sur cette extension du vivant, c'est que, c'est ce que j'indiquais en introduisant à cette deuxième partie, cette extension n'est pas un pur supplément théorique à la compréhension du vivant. Elle a une utilité pratique. J'ai essayé récemment, d'ailleurs, sur la maladie d'Alzheimer, dans un colloque qui a été assez intense sur ce point, de montrer que, sans se donner de pouvoir magique, bien entendu, sans compenser les déficiences des traitements objectifs de la maladie, encore absents, de la maladie d'Alzheimer en l'occurrence, le fait de prendre en compte toutes les dimensions du soin, le soin subjectif, le soin social et politique, le soin du monde en général, était la seule manière de répondre à l'intégralité de la perte. Non pas de compenser cette perte, mais d'y répondre. C'est ici qu'on touche aussi la question de la responsabilité. Je dirais, dans cette maladie de l'oubli, il ne faut rien oublier. Face à cette maladie de l'oubli, il ne faut rien oublier. Et donc cette extension du vivant est une obligation pratique. Dans l'idée du soin, il faut comprendre non seulement le traitement objectif ou le secours, mais aussi le soutien, la solidarité sociale et le souci. Je ne veux pas développer ici ces points, mais ça me semble fondamental et on pourrait le montrer aussi sur des questions comme celle de la catastrophe. Pour faire face à la catastrophe, il ne suffit pas d'accroître ce qu'on appelle la sécurité civile, pourtant nécessaire, il faut aussi la justice, l'individualisation du soin et le souci du monde naturel et culturel, et je dirais aussi interculturel. Dans le culturel, en réalité, il y a aussi la diversité culturelle des hommes dans le monde. Cette extension du vivant a donc bien non seulement une nécessité, mais une efficacité éthique et politique, une efficacité pratique. C'est ce qui en fait... Et encore une fois, il ne s'agit pas ici d'une sorte de moralisation indue, puisque c'est aussi une extension, et c'est le dernier point que je voudrais souligner, des problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, étendre le vivant aux relations, ça n'est pas seulement dire, c'est aussi très beau, il y a l'amour entre les vivants, etc. Non, puisqu'il y a aussi la haine entre les vivants qui va rajouter, ou la haine entre les vivants humains, hein, puisque c'est peut-être les seuls qui sont vraiment capables de haine, mais bon, qui rajoute un problème, et pas seulement une solution. Donc c'est aussi, et c'est le dernier point que je voudrais souligner, une extension des problèmes, et pas seulement une extension des solutions. Extension des problèmes, c'est ici que je rejoins le cadre que nous avons essayé de vous proposer dans ce colloque. Ce colloque est en réalité un effort pour parcourir les différents problèmes posés par l'extension du vivant aujourd'hui. Qu'en est-il dans le domaine scientifique ? Faut-il accepter ou non l'idée... seulement le moment de la réduction ou aussi le moment de l'extension, c'est-à-dire de l'émergence et de la création dans le vivant et du vivant lui-même, sans postuler la moindre transcendance, mais comme un problème. Les positions ici se déploient. De même, dans les relations morales et politiques, qu'en est-il du fondement biologique des normes ? Qu'en est-il aussi, évidemment, d'un point de vue politique, du rapport à l'environnement ? de la manière dont le vivant vient bousculer de domaine en domaine l'ensemble des enjeux de nos sociétés. Cette extension du vivant, c'est bien une extension des problèmes, et c'est devant elle que nous nous situons aujourd'hui. Et que ce colloque, à mon avis, tente de parcourir depuis la métaphysique et la biologie elle-même, jusqu'à l'éthique et à la politique, en passant par l'esthétique. Et pour terminer cette deuxième partie, je voudrais dire un mot de l'expression des problèmes du vivant dans l'expérience, qui fait partie aussi de cette extension donc inévitable, nécessaire, de ce moment élargi du vivant auquel nous assistons aujourd'hui. Dans l'extension de l'expérience même que j'ai évoquée, hein, cette situation de la maladie d'Alzheimer et les moyens d'y répondre, il y a un point en effet que je n'ai pas encore évoqué, c'est ce qu'on pourrait appeler, même si j'y ai fait allusion, hein, le rôle joué par l'expression de cette situation, par ce que j'appelais tout à l'heure en passant les récits de vie. Hein, les récits de vie. J'appelle récit de vie ici, hein, donc ce genre d'expression littéraire qui est à la fois un témoignage sur une expérience vitale extrême, ça fait partie du genre du récit de vie, d'ailleurs souffrance ou joie, hein, jouissance ou souffrance, et aussi une création singulière, artistique, face à cette situation objective. Ça n'est jamais seulement un témoignage, mais ça n'est jamais seulement une pure fiction. Cette situation esthétique aujourd'hui du vivant face à l'art est emblématique du moment du vivant aujourd'hui. Je la prendrai comme exemple pour terminer cette deuxième partie. La manière dont l'art conçu comme pure création, indépendante de la vie, dans ce que j'appellerais le moment des années 60, est certes bousculé par l'introduction du vivant, ça va se traduire dans le bio-art, dans l'autofiction, dans le récit de vie d'une manière générale, mais ne doit pas donner lieu pourtant à une réduction de l'art, à un témoignage, à une objectivation du vivant ou à une manipulation du vivant. Le récit de vie est exemplaire, peut être exemplaire, parce qu'il y a tous les... Au contraire, il y a les deux extrêmes là aussi. Le récit de vie peut être exemplaire d'une articulation de la vie et du sens, d'une articulation de l'épreuve extrême du vivant et de la création extrême face au vivant. Et je dirais même que le vivant ne nous apparaît réellement comme tel qu'à travers son expression diversifiée et libre, hein, dans un monde démocratique entre les hommes. Ce qui m'amène, au fond, à ma troisième et dernière partie. En effet, face à cette extension du vivant, nous sommes, au fond, on a fait avancer le problème, il me semble, et on est au seuil maintenant de notre colloque, et maintenant je vais devoir aller très vite. Je vais demander à Arnaud de m'interrompre, mais je pense que j'ai déjà dépassé le temps, mais j'ai besoin encore de 5 minutes. Nous sommes face à un nouveau problème qui est moins celui de la réduction à une objectivité minimale que de l'éclatement du vivant dans une série de dimensions inévitables et qu'il faut là aussi assumer pleinement. Et face à cet éclatement, il nous faut bien sûr maintenant tenter, et cette fois-ci à titre personnel, chacun d'entre nous en quelque sorte, dans la diversité qui constitue un moment philosophique selon moi, hein, diversité qui constitue notre moment aujourd'hui, comme elle a constitué le moment des années 60, le moment de l'existence au cœur du XXe siècle ou le moment de 1900. Hein, ce que j'ai... Bon, il faut évidemment assumer une position qui puisse tenter de réunifier ces expériences dans une idée du vivant, finalement, qu'il faut quand même tenter d'assumer et de soumettre à la discussion. J'en viendrai donc maintenant, dans un dernier temps très bref, à une hypothèse sur la manière d'unifier le problème du vivant aujourd'hui et de répondre donc, de prolonger à la fois l'épreuve de la réduction et celle de l'extension du vivant qui caractérise, selon moi, donc notre moment. Ce troisième temps de l'exposé donc sera très très bref, hein, et portera seulement sur cette hypothèse nécessaire selon moi pour articuler, développer donc les deux premiers temps que je viens d'esquisser. Je soutiendrai ici une thèse très simple. C'est que si le moment du vivant nous apparaît à la fois comme une réduction objective et comme une extension indéfinie, réduction à un objet et extension à une diversité de sphères et de problèmes, c'est parce qu'il nous apparaît toujours à travers les relations entre les vivants humains. À travers les relations entre les vivants humains qui tout à la fois se séparent de la vie et qui en font partie, qui en sont, comme disait Bergson dans un texte décisif, hein, quelle que soit l'essence intime de ce qui est et de ce qui se fait, nous en sommes. Quelle que soit l'essence intime de ce qui est et de ce qui se fait, nous en sommes. Les relations entre les vivants humains produisent à la fois en réalité une séparation avec le vivant et une intégration au vivant, et c'est ce qui me conduira dans ce dernier temps à cette philosophie de la vie critique, hein, que j'évoquais en commençant, mais je n'en dirai qu'un mot, évidemment, ayant peut-être trop débordé déjà jusqu'ici. C'est les relations entre les vivants humains qui sont à la fois le fait simple et divisé, et parfois même déchirant, dont nous faisons l'expérience dans les situations critiques que j'ai évoquées. J'en dirai juste quatre points à titre de programme, cette fois-ci plus personnel, non pas le programme du colloque, hein, que j'ai évoqué en passant dans le deuxième temps, mais programme de travail finalement plus personnel, comme une des positions qui va apparaître dans ce colloque, chacun de ceux qui vont parler ayant en réalité une manière de répondre au problème sans doute très différente, et entre autres différente de celle que je vais esquisser ici. Le premier point, c'est que, et comme le montre la situation que j'ai évoquée en point de départ, cette situation devant un malade atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est que nous ne pouvons pas atteindre le vivant directement, mais seulement à travers les relations humaines, avec leur dimension de rupture avec le vivant lui-même. Je ne dis pas d'exception, hein, pas plus que Pierre Montebello, je ne défends l'idée d'une exception humaine, hein, mais il y a quand même une rupture humaine avec le vivant comme tel. Une rupture humaine qui passe par une double exigence normative, une exigence de sens, qui passe par le langage et la culture, autant que par la vérité scientifique, pas seulement d'objectivation scientifique, mais de langage, de symbolique pourrait-on dire, et une exigence morale qui fait que chaque homme, même s'il faut définir l'homme biologiquement, l'homme c'est l'espèce humaine, chaque homme doit aussi être considéré comme une personne libre et comme un sujet moral et politique. En un certain sens, donc, la question de la rupture anthropologique est au cœur du moment du vivant. La question de l'homme, comme dans tous les moments philosophiques, est centrale. C'est un point sur lequel je m'accorde pleinement avec quelqu'un qui devait venir à notre colloque, qui est Francis Wolff, qui a écrit un livre important sur l'homme, montrant que dans chacun des moments philosophiques, enfin ce que j'appelle de mon côté des moments philosophiques, la question de l'homme est centrale. L'homme du structuralisme, l'homme de l'existentialisme, et aujourd'hui l'homme de cette situation faite à lui par sa condition biologique, animale, environnementale, etc. Cette question de l'homme, je crois qu'il faut l'assumer comme une sorte de rupture sans doute artificielle, mais produite par la négativité même de son expérience, produite par le besoin pratique. C'est ici que je resterai bergsonien en quelque sorte. C'est la finitude, c'est les besoins de l'urgence vitale qui nous obligent à postuler, à passer par le langage et par la liberté comme reconnaissance juridico politique, considérer l'homme comme un sujet libre et parlant, et d'une certaine manière en rupture avec le vivant en général, sous la pression du négatif. C'est le premier point. Deuxième point, au-delà de cette rupture, le programme qui nous attend aujourd'hui, c'est la réintégration des relations entre les vivants humains dans le vivant en général, mais seulement depuis les relations entre les hommes. C'est la position en tout cas que je soutiens de mon côté. Et la réintégration ici, elle ne passe pas à mes yeux seulement, elle ne passe pas seulement par une pensée du vivant, ni même par une action sur le vivant, vue de l'extérieur, mais aussi par une... C'est ici que je rejoins aussi, je pense, des démarches que tente Pierre Montebello avec d'autres, hein, comme par exemple Renaud Barbaras du point de vue de la phénoménologie, bon, c'est-à-dire une genèse de la pensée humaine à partir du vivant. Genèse des relations humaines à partir du vivant. Et de même, extension pratique des relations humaines aux relations avec le vivant, avec les animaux, avec l'environnement, avec la vie et la planète en général, mais depuis les relations entre les vivants humains. Deuxième point me paraît très important, extension que je dirais d'un côté cosmologique, genèse du vivant humain à partir de la vie en général, et extension cosmopolitique, au sens aussi de Latour et Stengers, cosmopolitique pas seulement entre les humains, mais aussi avec les autres habitants du vivant. Mais depuis, c'est ma position en tout cas, cette rupture avec le vivant, produite par la finitude même de la vie. Dès lors, la philosophie de la vie à laquelle nous sommes ramenés est une philosophie que je désignerai désormais sous le nom de vitalisme critique. C'est un vitalisme, puisque nous sommes ramenés à la vie comme à un fondement ultime, mais à une vie qui ne s'atteint qu'à travers une négativité, une différentialité des différences et une polarité ou une normativité. la vie n'est pas une essence, mais plutôt une série de différences et de médiations, et de qui se traduisent dans l'expérience humaine par une diversité normative qui se traduit aujourd'hui dans notre moment présent par des expressions et des conflits divers et inévitables. Et c'est cette philosophie donc, que je voudrais esquisser ici. Et le tout dernier point, et je rejoins ici en terminant sur cette note métaphysique ce vers quoi on va embrayer aussi cet après-midi et dans d'autres exposés, c'est un point historique. C'est qu'il me semble qu'il y a une tradition philosophique en France, surtout peut-être, mais pas seulement, de ce vitalisme critique, d'une vie considérée comme fondement ultime, mais pas comme une essence objective et unique, d'une vie qui, chez Bergson, est divisée entre la création dans le temps et le retombé dans l'espace, dans le besoin pratique, qui impose le langage, les lois, hein, les normes juridiques, et la connaissance théorique et pratique, hein, d'une certaine façon, mais qui permet aussi son dépassement dans certains moments très, très précis, hein, d'une vie qui, chez Canguilhem, est intrinsèquement normative, dont l'opposition du normal et du pathologique n'est pas caractère secondaire, mais structurel de la vie, d'une vie qui, comme chez Deleuze, Derrida ou Foucault, ne peut se saisir qu'à travers les différences qu'elle produit dans les vies et entre les vies. Il y a ici une tradition, hein, et pas seulement une hypothèse, que je voudrais soumettre à notre orientation. Je voudrais conclure d'un mot ce parcours qui a quand même été très, très, un peu trop long et quoique très rapide. Et très brièvement, je voudrais dire qu'en fait, chaque vie connaît plusieurs moments du vivant. Chaque vie connaît plusieurs moments extrêmes du vivant. Des moments où tout paraît se briser, et d'autres moments où tout, au contraire, peut paraître se réunir, se renouveler, hein, ou recommencer en quelque sorte. Il peut même arriver, et l'exemple de la situation que j'ai prise comme point de départ le montre à mon avis, il peut même arriver que ces deux extrêmes, où tout paraît se briser et où tout paraît se réunir, se mélangent, se rencontre. C'est la situation, à mon avis, de ces fins de vie, parfois terribles, où quelqu'un, un sujet individuel, semble être réduit à un cas d'une maladie en général, mais où parfois il peut se réunifier et retrouver sa vie singulière, revivre, je dirais, ne serait-ce qu'un moment. Il peut arriver aussi, au contraire, dans ce même contexte, que en raison de ce moment extrême de destruction du vivant, on soit amené, de manière à mes yeux exceptionnelle, à dépasser les normes qui régissent les relations légales et morales entre les vivants humains. Il peut y avoir donc des moments dans ces maladies nécessairement exceptionnels, des moments où on retrouve l'unité, où la personne tout à coup revit un instant avec ses proches et son monde, et des moments au contraire où on doit considérer qu'elle n'est plus possible, même si la loi ne peut pas l'instituer, même si cela ne peut être que dans la relation individuelle déchirée comme telle. Ce que j'ai voulu montrer au fond, hein, ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que ces deux extrêmes des moments du vivant dans nos vies sont en réalité les mélangés dans ces expériences sont ce qui dessine les deux extrêmes du moment du vivant en général. Il y a des moments de destruction extrême, hein, et des moments aussi de création relationnelle et nouvelle du vivant comme tel. Ainsi, hein, au-delà des propos que nous allons échanger sur le vivant, sur le moment du vivant comme moment de la réduction, de l'extension ou de la relation, il y a aussi des moments entre les vivants, et j'espère que nous allons en vivre un ici cette semaine.